France Musique. France Musique, les grands entretiens. Benjamin François.
Florence Malgoire, née un 9 mars après minuit à Dugny, et je suis violoniste.
Florence Malgoire, vous n'allez pas que jouer dans l'ensemble de votre père, puisqu'on vous demande bientôt chez Philippe Hervaig, à la Chapelle Royale. Quand on passe de Jean-Claude Malgoire à Philippe Hervaig, c'est comment ?
Alors, à ma génération, on était quand même somme toute assez peu de violonistes baroques, donc j'ai vécu le freelance de manière aiguë et permanente pendant 3 décennies. C'est-à-dire que on pouvait aller butiner, et quand même, chez des musiciens, des chefs très différents. Alors en 1984, Philippe Hervaig m'a demandé de jouer le fameux Barmelisch dans la Saint-Mathieu.
Il appartient, je crois, à ce Herbert Meudisch, à l'orchestre 1. Et vous, vous étiez premier violon de l'orchestre 2.
Alors, il y a eu...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que Sigiswald a demandé à François de faire le solo de l'orchestre 2.
Ah ben voilà.
Et à moi de faire de jouer le Herbert Meudisch. Ça n'a pas été rectifié, d'ailleurs, sur le disque. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et d'ailleurs, on a enregistré à Bruges en 2 prises. Alors oui, bon, quelle aventure, c'est... C'était magique d'être à Bruges, que je ne connaissais pas. Et puis, tous ces musiciens, il y avait Willem Janssen qui faisait le continuo, il y avait Jaap ter Linden, Claire Giardelli, il y avait Marcel Poncel.
Vous avez déjà cité certains de ces musiciens qui jouaient avec Sigvard Kuijken. Ça veut dire qu'en gros, le pool de musiciens était à l'époque le même.
C'était à peu près le même, en tout cas en Belgique, en Hollande, et oui. Et là, j'ai une jolie anecdote, parce qu'il y avait Janine Rubinlicht qui jouait pour cette Saint-Mathieu. Et Janine Rubinlicht avait fait à Saint-Étienne-du-Mont, la fois d'avant, avec Philippe Hervaig, le solo Herbert Meudisch. Donc quand Philippe m'a demandé, j'ai tout de suite appelé Janine, que j'aimais beaucoup, qui jouait aussi à la petite bande. Et donc, je lui ai dit, Janine, qu'est-ce que tu en penses? Philippe me demande de jouer le Herbert Meudisch. Et Janine m'a dit, ah, mais c'est formidable. Et alors, arrivée à la première répétition, qu'est-ce qu'elle a fait, Janine? Elle m'a mis sur le pupitre sa partition. Alors, sur sa partition, il n'y avait aucun doigté, aucun coup d'archet. En revanche, il y avait des tas de sigles sur la loi des nombres. Elle était fascinée par la loi des nombres chez Bach. Il y avait des poèmes partout. Ça, c'était une de mes leçons de musique et de transmission. Ce jour-là, je me suis dit... Pour moi, c'était une vieille dame, hein, elle devait avoir mon âge à l'époque. Et je me suis dit, souviens-toi, Florence, comme elle te passe la main. On a fait l'enregistrement à Bruges et puis des concerts un peu partout en Europe, dont à Pleyel, où il y a eu d'ailleurs un scandale, parce qu'on suppose que c'était le docteur Zwang qui était contre le diapason 415.
Un fabuleux sexologue.
Le fabuleux sexologue, et qui... aurait crié, moi je ne sais pas, je n'ai pas pu vérifier de mes yeux, mais il semblerait que c'est lui, mais on a eu très peur. Parce qu'en plein concert de la Saint-Mathieu, eh bien, il a été crié « massacre ». Alors ça a donné que tout le monde était là. On était complètement angoissés, on se disait « mais est-ce qu'il y a un fou dans la salle ?» Enfin voilà, c'était quand même, à l'époque, très controversé.
Thank you. Florence Malgoire, quand votre père fonde sa grande écurie, on est en 1966, vous avez 6 ans. Voilà, il se passait beaucoup de choses pour votre père à cette époque-là. Il a petit à petit quitté l'Orchestre de Paris pour fonder son propre ensemble. Vous vous souvenez de cette période ?
Je m'en souviens très bien, car il était aussi accompagné de toute une équipe de musiciens qui le soutenait dans son projet, avec son énergie et sa curiosité, sa flamme. Il y avait Daniel Salzer, qui a cofondé la Grande Écurie, la Chambre du Roi. Daniel était pianiste, claveciniste, continuiste. Ils étaient très proches, tous les deux. Il y avait, bien sûr, ses amis merveilleux musiciens, comme Alain Moglia, Roland Pidou, Mireille Cardoz, Pierre Séchet. Et puis, il y a eu ce moment de basculement sur instruments anciens. Donc, il y avait Michel Henry, oboïste, il y avait Odile Bayeux, organiste, il y avait Claire Giardelli, Jean-Louis Charbonnier, Bernadette Charbonnier, et bien sûr, Gilbert Bézina, qui a assuré le poste de premier violon. Toute une équipe de passionnés, l'Uberlu, extraordinaire.
Quand il crée son atelier lyrique à Tourcoing, mais ça c'est plus tard, vous allez aussi être une des chevilles ouvrières de cet ensemble.
Oui, donc j'ai été son violon solo. Depuis 1966, en fait, il y a eu, à ma connaissance, 5 violons solos. Donc il y a eu Alain Moglia, Jacques Pratt, John Holloway un petit peu, et puis beaucoup Gilbert Bézina, puis moi, en alternance avec Philippe Couvert, et Philippe Couvert qui est resté au moins 2 décennies.
Voilà. Diriez-vous que tous ces musiciens se ressemblent ?
Eh bien non, c'est vrai que je ne me suis pas posé cette question, mais non, on ne se ressemble absolument pas. Mais on a en commun une connivence musicale avec Jean-Claude.
Comment se passe la relation entre un chef et son premier violon ? J'imagine qu'il y a des séances de travail où vous vous retrouvez nécessairement d'abord ensemble avant d'élargir la vision aux cordes.
Alors ça serait idéal, mais pas toujours. Le rôle du premier violon, de mon expérience, c'est vraiment de saisir, bien sûr, le tempo, mais le geste, l'affect du chef. Et c'est aussi avoir une grande connivence. Pour moi, ça se passe vraiment à 3, avec la basse d'Archer, ou si le chef est continuiste, avec le chef continuiste. Pour moi, la colonne vertébrale, c'est la basse. Mais ça nécessite bien sûr une grande connivence, de pouvoir transmettre le geste, et transmettre l'énergie du geste, la dynamique, le tempo. Et c'est marrant parce que j'ai jamais passé un concours pour être violon solo. C'est les chefs qui m'ont repéré. Ça s'est passé comme ça, naturellement. C'est-à-dire que c'est vraiment Philippe Hervé qui m'a repéré dans ce rôle-là. Peut-être parce que mon geste était éloquent. Et mon énergie aussi. Et donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup pratiqué cette fonction de violon solo avec des chefs très différents. C'est vrai que avec mon papa, forcément, il y avait une complicité, j'ose dire, charnelle. Forcément, enfin, j'avais l'impression de comprendre. Il était un peu comme un cuisinier devant son piano de cuisine, à parsemer les épices et à touiller. Et j'avais l'impression de ressentir chaque mouvement. Ce qui, d'ailleurs, n'était pas facile, parce que c'est toujours... j'étais totalement comme à nu avec lui, hein. Enfin, fragile de cela aussi. C'était une force et une fragilité. Et puis, en plein aussi dans ce besoin de me nourrir un peu de tout, en fait. Donc, j'ai eu cette chance qu'à toute cette période, le freelance, c'était vraiment du freelance. C'est-à-dire qu'on pouvait voyager et jouer avec des gens très différents. Resti un mani, letizia terra, mi sui mora di tutto, mi sui mora. Oh,
Est-ce que vous diriez, Florence Malgoire, que le fait de porter ce nom vous aura dans un sens aidé, mais parfois, est-ce que vous dites qu'il n'a pas été un peu lourd à porter ?
Mon père aimait beaucoup dire « Florence s'est fait un prénom, très vite ». Il aimait beaucoup mon indépendance, il aimait beaucoup... Après, je ne sais pas s'il était toujours très content de mes choix, mais il était très fier que je fasse aussi des projets personnels, ce que je ne me suis jamais privée de faire. Et est-ce que ça a été lourd ? Oui. Alors, quand je suis arrivée à La Haye, j'ai vécu une expérience, donc j'étais toute jeune, hein. J'ai vu tout de suite que dès lors qu'on a connu mon nom de famille, j'ai eu tout d'un coup beaucoup d'amis, parce qu'à l'époque, mon père était une vraie star, il donnait du travail, évidemment. Et donc, oui, là, j'ai été très vigilante. Bien sûr, dans ce métier, il y a de la rivalité, il y a des jaloux, il y a donc
des amis aussi. C'est vous qui lui avez présenté, je crois. Il le raconte dans ses grands entretiens. Dominique Wyss.
Oui, c'est moi qui lui ai présenté Dominique Wyss. Pas mal de musiciens qui ont joué longtemps à la grande écurie. Je disais, ah, tu sais, j'ai joué avec un tel, il est vraiment super, et tout ça. Et oui, ça aussi, vous avez raison. On se cooptait.
De bouche à oreille, ça joue.
Seul de bouche à oreille, on se cooptait. Il aimait découvrir des jeunes talents. Ça, tout le monde le sait, que ce soit les chanteurs, les instrumentistes, il donnait sa chance. Jamais je ne l'ai vu humilier qui que ce soit. J'ai assisté une fois à une séance de travail où il y avait un soliste qui avait un trac terrible et qui, donc c'est très, c'était très difficile. Qui n'y arrivait pas. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais jouer devant les copains, jouer devant tout un orchestre, moi, la première fois, c'était justement avec Philippe Hervègue. Si j'avais pas eu le clin d'œil de Janine Grubin-Licht, qui a été merveilleux quand je devais lever le pupitre, voilà, avec les jambes tremblantes. Donc, ce jeune musicien, soliste, était un peu dans cet état-là. Jean-Claude a été formidable. Il a dit :« Bon, je crois que c'est l'heure de la pause. On va prendre un petit café. Moi, je vais travailler là un peu. » Et moi, je suis restée discrètement pour voir comment il allait faire, comment il allait s'en sortir de cette situation. Et là, il lui a dit, tu as déjà marché dans la boue avec des bottes. Pour faire respirer la personne, il a fait du théâtre. Et alors, il a mimé quelqu'un qui a des bottes et qui est dans la boue, et comment il fait pour se relever, le temps qu'il met, le geste. Où est-ce qu'il a inventé ça? Comment il a inventé ça? Les musiciens sont revenus. Le solo était magnifique. Il s'agissait de respirer. Respirer. Et ça, c'est une qualité aussi d'écouter les silences, de pouvoir rester en suspens, de ne pas avoir peur du vide.
Musique, les grands entretiens de Florence Malgoire.
Vous avez participé à de nombreuses tournées, vous l'avez dit, vous aimez voyager.
Oui.
Y a-t-il quelques tournées qui restent tout spécialement gravées dans votre mémoire ?
Alors, il y en a beaucoup qui sont gravées, puis ça a commencé déjà quand j'étais enfant, puisque mon père nous emmenait à La Rochelle, par exemple, pour les concerts de The Deuxième, de musique contemporaine. Il m'a emmené aussi à Copenhague, il m'a emmené à Londres, où il dirigeait au Covent Garden. Donc, j'étais déjà habituée à voyager par la musique. Et puis, bien sûr, alors, les premières tournées que j'ai pu faire, c'était à l'île de la Réunion, avec la grande écurie à la Chambre du Roi. Et là, on a eu une panne d'avion. Oui, alors ça, c'était très drôle. Il y a eu une panne d'avion qui n'a pas été grave, puisqu'on a atterri aux Seychelles, donc dans un hôtel de luxe, et puis on a fait du parapente. Mon père adorait le ski nautique, il nageait beaucoup, on s'est beaucoup amusé. Puis on faisait des randonnées au volcan et les concerts, oui, c'était très drôle. Et puis, tournée au Pérou avec Catherine Puig, c'était quand même, il y avait les militaires, etc. Et puis nous, on avait envie d'aller se balader et on est parti. Et là, je crois que mon père a eu très peur parce que c'était quand même très dangereux. Bon, il n'y a pas eu de problème. Plein de tournées, puis avec William Christie aussi, en Asie. J'ai eu la chance de pouvoir emmener mon fils aîné là pendant 10 jours à Tokyo, puis aussi 10 jours à Shanghai. On faisait les paladins de rameau avec William Christie.
Alors justement, Florence Magloire, vous faites allusion à l'un de vos enfants. Vous avez donné vie à 2 enfants. Comment êtes-vous arrivée à lier les deux?
Alors, les enfants, ça c'est à deux. Et j'ai la chance que mon compagnon, mon mari, Hervé Mestron, que j'ai rencontré à la Grande Écurie, la Chambre du Roi, à Tourcoing, était altiste et a changé de carrière, il est écrivain. Et donc, il a ce mode de vie sédentaire. Et c'est lui qui, en papa poule, a assuré le quotidien, ce qui m'a permis de partir en tournée tout à fait légère, même si parfois c'est dur pour les enfants, c'est dur pour les parents, enfin surtout pour les enfants, parce que mon fils aîné, par exemple, Ariel, ne supportait pas quand on s'appelait au téléphone. Et à l'ère du fax, on s'envoyait des dessins, avant même qu'il n'écrive, et ça, c'était une belle communication, mais par téléphone, il me disait tout de suite, mais tu reviens tout de suite, là. C'est très difficile. Moi, j'ai souffert, de l'absence de mon père, qui avait une vie trépidante, qui était tout le temps en voyage. Je sais que je lui écrivais quand mes parents se sont séparés. Je lui écrivais, mon frère aussi. Et on comptait parfois les jours avant de le revoir. Et j'ai fait vivre cela à mes enfants, en l'ayant vécu moi-même. Je ne sais pas comment font les familles monoparentales en étant musiciens, parce que ils doivent jongler avec le babysitting, les nounous, enfin, que sais-je. Moi, je me souviens une fois, j'étais en Australie. Quand ça arrive qu'on est à l'autre bout du monde et qu'on voit la nuit étoilée, c'est pas du tout les mêmes étoiles au-dessus de soi, on réalise vraiment qu'on est à l'autre bout du monde. Et puis à la sortie de classe, d'entendre, de voir les petits-enfants sortir avec les cartables, les bruits des enfants, etc., c'est un crève-cœur.
Est-ce qu'il vous est arrivé, Florence Malgoire, de refuser un projet parce qu'il y avait un anniversaire d'enfant, un moment où vous désiriez être là?
Oui. Alors, par contre, j'ai eu un conseil d'une très chère amie musicienne, Claire Giardelli, qui m'a dit, alors Florence, j'ai un seul conseil à te donner. Si tu choisis de ne pas faire un concert pour des causes personnelles, familiales, pour être avec tes enfants, avec ta famille, tu ne te justifies pas. Les femmes, nous nous justifions beaucoup de ce que l'on fait. C'est dans notre éducation. Et j'ai appris à dire, ah, je suis désolée, je ne suis pas libre, et de ne pas me justifier. J'ai retenu sa leçon 5 sur 5.
Il y a un aspect des choses qu'on a peut-être oublié dans l'aspect maman, c'est qu'il vous est peut-être arrivé aussi d'emmener l'un de vos enfants avec vous en tournée ou dans un court voyage.
Oui, la première fois que je suis partie en concert quand Marius, mon cadet, est né, c'était pas facile de partir. Et il s'est passé là une chose extraordinaire. Mon fils aîné, Ariel, a pris dans les bras son petit frère et lui a dit « Tu dois savoir que partout où ta maman est, tu es dans son cœur. Elle est avec toi tout le temps. Et puis alors, il faut que tu saches aussi qu'elle a l'or ce qu'elle fait. Donc, tu ne pourras pas l'en empêcher, hein, de toute façon. » Et je suis repartie, les jambes tremblantes, je pleurais. De joie. Je me suis dit, bon, si j'ai transmis cela, cette force, c'est aussi que l'amour loin des yeux existe. Et c'est ce que j'ai appris par l'absence de mon père, évidemment. C'est ce qui a forgé mon éducation aussi. C'était un moment très fort.
Thank you.
j'ai pu emmener mes enfants en tournée. Les enfants, quand ils vont pas à l'école, c'est assez facile. Je me souviens d'une tournée à Athènes où Marius avait 5-6 ans. On faisait les paladins de Jean-Philippe Rameau avec William Christie. Et il y avait plusieurs enfants de musiciens. On restait une bonne semaine, je crois. Et donc, alors ils jouaient ensemble. C'est une grande joie quand on fait une production sur place, de pouvoir le vivre avec ses enfants. Moi, je l'ai aussi tellement vécu, hein, enfant de la balle, d'être, c'est un tel bonheur d'être dans les répétitions, d'aller voir dans les coulisses ce qui se passe, de comprendre qu'il y a plein de corps de métier. Les costumiers, d'aller se faire maquiller par la maquilleuse, de se faire gâter par tout le monde, parce qu'on est pris en charge finalement par tout le monde. Il n'y a pas besoin de tierces personnes puisque c'est un monde clos et les enfants savent très bien que aux répétitions ils doivent être silencieux.
Et vous assistiez au concert depuis la salle ou depuis les coulisses?
Alors ça dépendait s'il y avait des places ou pas, mais en tout cas les répétitions, ça c'est j'ai toujours adoré suivre la construction. Et puis découvrir aussi que les chanteurs qui apprennent par cœur, qui sont sur scène, et ils attendent des heures. Certains tricotent, je me souviendrai toujours de Gilles Ragon, une production à Tourcoing, qui tricotait tout en écoutant les répétitions, mais voilà, il utilisait ses mains. Et à la fin de la production, il a offert à Jean-Claude un très beau pull. Voilà, ouais, c'est quand on est enfant, c'est un monde. Et puis un orchestre aussi. Je trouve un orchestre, c'est pour moi comme un jardin. Il y a quelques années, j'étais à New York au Lincoln Center et un jour off, je suis allée à un concert de Gergiev, qui dirigeait l'orchestre de Londres, de la radio de Londres, Brahms, mon chéri. Et je suis rarement dans le public, enfin, et là j'étais dans le public et l'orchestre est arrivé et des larmes de joie ont coulé. Cette énergie que dégage tout un orchestre, le secret de tous les musiciens, c'est qu'on passe des heures, des milliers d'heures seul à travailler son instrument pour se retrouver dans la polyphonie pour une œuvre commune, transmissible au-delà des mots dans tout l'univers.
Un extrait de l'adagio du concerto en ré majeur opus 77 de Johannes Brahms par Nikolai Snyder au violon, l'orchestre philharmonique de Vienne et Valérie Gergiev à la direction. Merci à Marie-Christine Ferdinand, Thomas Robin, Benjamin Vignal et Gilles Blanchard à la réalisation. Et je vous dis à demain pour le quatrième épisode où Florence Malgoire nous parlera des nombreux ensembles où elle a occupé la chaise de premier violon. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.